Maurice Rollina, l'innocent. Près d'une croix, au carrefour de quatre chemins, je rencontrai le père Jean, mon vieux mendiant familier, tout inquiet de la disparition prolongée de son pauvre innocent, comme il appelait son grand-fils, un monstre idiot à figure informe, n'ayant qu'un grognement pour parole et dont les yeux tortus et louches était condamné à toucher ce qu'il venait de voir et s'arrachait pour vous regarder. « Il s'est perdu !» me dit le vieux en passant son bissac sur l'autre épaule. « Ou plutôt non, il est là-bas dans ce fond à musardier au bord de la rivière. Allez le chercher si loin et si creux. » C'est trop dur pour moi. Oh, il doit être près du mon noir gouffre, parce que c'est chaque fois qu'il s'en va, il paraît que c'est là qu'il se rend d'habitude. Donc, si vous le trouvez pendant votre promenade, dites-y donc, s'il vous plaît, que je suis en peine de lui et qu'il faut qu'il remonte chez nous avant que ça fasse brun. Oh, il cause pas franc, mais... il entend bien ce qu'on dit, et dans sa manière, il comprendra votre langage. Soyez sûr, mon père, Jean, lui répondis-je. Je vais justement pêcher dans cet endroit-là, et si je le rencontre, votre gars, je lui ferai votre commission. Et je descendis la côte, toute fertilisée, stérilisée, toute horrifiée, par le chaos amoncelé de roses, au milieu de laquelle courait, transparent et massif, le long et profond dormant du noir gouffre. J'avais à peine fait quelques pas qu'au premier tournant de la rivière, où le paysage devient si farouche, j'aperçus l'idiot incliné sur le bord de l'eau silencieuse. Il était là, dans ce coin de nature si sévère et si fauve, rendu pour moi plus saisissant, plus tragiquement sauvage par sa présence, de cette âme des limbes, blanche et trouble, qui dans sa quasi-inconscience l'avait pourtant particulièrement adopté, il avait choisi de préférence pour s'y épanouir en toute rouerie intime, en toute expansion solitaire, pour y trouver son atmosphère et son cadre, l'aliment de ses songes, le bruit frère de ses soliloques, le silence ami de sa torpeur, marchant à pas de loup, caché par les herbes et les arbres, je pus l'observer de tout près, sans qu'il me vît. Avec des pierres et de la terre, il s'était amusé à construire des petits rochers qu'il avait hérissés de ronces et festonnés de lierre. Juché sur un tertre moussu, une minuscule maisonnette, avec portes et fenêtres, montrait le soin ingénieux qu'il avait dépensé pour lui donner la rectitude des murailles et le juste anguleux de la toiture. Il avait façonné le petit bœuf avec des glands et des fruits rouges, des haies, chacun ayant quatre bouts d'épines en guise de jambes, et comme s'il eût voulu, dans cette antenne, mettre un rappel du printemps, il avait fait des bouquets multicolores, bigarrés de feuilles vertes qui, au bout de souples bagatelles et baguettes enfoncées dans le sable, figuraient de jolis petits arbres féeriques bercés par leur légèreté. Même, et se dandinant au moindre souffle, à sa façon, dans son baroque enfantin, tout cela poétisait le mystère du lieu. C'était un hommage touchant et naïf à la vie, comme au sommeil des choses, leur étant d'autant mieux approprié qu'il leur venait d'un être plus près d'elle, plus obscur, plus muré en son monotone végètement, plus instinctivement compatible et communiant avec la fatale simplicité de la nature. Et maintenant, à genoux, les poignets dans l'herbe, tour à tour, faisant dodeliner sa tête ou la tenant fièrement penchée, l'idiot se mirait dans l'eau vibreuse et pleurait silencieusement devant sa hideuse image. J'avais certainement surpris, sans l'éveiller, son tête-à-tête avec lui-même, abîmé, si chagrin dans sa propre horreur. Il ne soupçonnait pas ma présence, mais au mouvement que je fis pour l'aborder, il se dressa soudain comme un ressort, en poussant un cri de bête en alarme, et avec une précipitation surhumaine, atteignit le haut de la colline, d'où il sembla, pour mes yeux, qu'il se perdait dans les nuages.